Prendre part, c'est un balado engagé sur l'action climatique, organisé par la table de concertation Jeunesse en solidarité internationale de la COSI.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Sandra Nelly et je suis enthousiaste à l'idée de vous accompagner dans cette deuxième saison de Prendre part, dans laquelle nous allons aborder la souveraineté alimentaire, comment cultiver nos droits. Dans cet épisode, je vais échanger avec Noémie Lefrançois. Tu es diplômée en politique appliquée de l'environnement. Tu as participé virtuellement à la COP26 de Glasgow. Et en 2023, tu étais parmi notre délégation jeunesse de la COSI pour la COP28 à Dubaï. C'était une opportunité extraordinaire que tu me disais pour toi d'amplifier la voix des plus vulnérables au changement climatique à travers le plaidoyer en faveur de leur droit à la réparation des préjudices et les expériences que tu as eues au Sud aussi à travers d'autres expériences de coopération dont tu vas nous parler. En effet, en fait, tu t'es spécialisée encore dans ton parcours au niveau de la transition écologique municipale. Tu es récemment revenue d'un mandat de 3 mois en Bolivie avec le CECI, durant lequel tu as conseillé le gouvernement municipal de La Paz sur la question environnementale, où est-ce que tu étais impliquée dans les revendications climatiques des communautés locales et autochtones. Actuellement, tu es chargée de projet en transition écologique chez Ma Petite Boîte Verte, une petite entreprise franco-québécoise qui accompagne les municipalités et les institutions gouvernementales dans la lutte contre les changements climatiques et le développement durable. Bonjour Noémie, je me sens vraiment privilégiée de t'avoir avec moi en studio aujourd'hui.
Bonjour à vous, je suis vraiment contente d'être là moi aussi.
Donc, avant de se lancer dans toutes nos grandes questions, j'aime bien toujours avoir l'opportunité d'échanger sur une note un peu plus personnelle. Puis, lorsqu'on discutait, tu m'avais parlé d'un livre, L'éco-Sophie ou la sagesse de la nature de Serge Mongeau. Puis, en fait, je veux savoir qu'est-ce qui t'avait touché dans cette lecture-là. Pourquoi est-ce que tu m'en avais parlé?
Oui, donc je dirais éco-Sophie, juste à ne pas confondre avec l'éco-Sophie parce que c'est comme la philosophie.
Pardon.
Donc, c'est vraiment dans le sens d'une philosophie de la nature. Puis vraiment, ce livre-là, pour moi, ça a été une façon un peu de prendre conscience de l'interdépendance entre la santé humaine et la santé de la nature. Donc, des fois, je pense qu'on se sent beaucoup trop déconnecté de cette nature-là maintenant en 2023. Puis, c'est important de reprendre conscience qu'on fait partie intégrante de la nature. Puis vraiment, ce livre-là, pour moi, ça a été une révélation à ce niveau-là.
Puis, justement, lançons-nous dans le sujet des conséquences des changements climatiques. Dans le cas de cet épisode-là, on voulait plus particulièrement justement prendre le temps de se poser sur le portrait de la Bolivie, dans lequel justement tu as eu l'occasion de te spécialiser, puis de voir concrètement c'est quoi la situation, c'est quoi les conséquences des changements climatiques en ce moment en Bolivie.
Oui, ben moi, dans le fond, je suis allée en Bolivie cet été, donc plus particulièrement de juillet à octobre. Puis, cette période-là, c'est la période sèche dans la région de La Paz où j'étais parce qu'il y a vraiment une très grande diversité climatique en Bolivie. Donc, il y a vraiment des régions qui sont très en altitude, comme la capitale, La Paz. Puis, il y a d'autres régions, au contraire, que c'est la forêt amazonienne, c'est vraiment au niveau de la mer. Donc, d'un endroit à l'autre, c'est vraiment très, très changeant, le climat. Mais moi, dans la région où j'étais, justement, dans une période où il n'y a pas de pluie, donc je pense que cette période-là s'étend, si je ne me trompe pas, d'environ mars jusqu'à novembre, donc c'est très rare qu'il pleut. Puis on voit vraiment la problématique autour de la pénurie d'eau. Le peuple bolivien a énormément peur de manquer d'eau parce que c'est déjà arrivé dans le passé. En novembre 2016, il y a eu la plus importante pénurie dans la ville de La Paz depuis 25 ans, qui est devenue une crise hydrique. Donc, vraiment, les gens n'avaient pas accès à l'eau pendant plusieurs heures dans la journée, voire pendant des jours parfois. Donc, ça, je dirais que la pénurie d'eau, c'est vraiment quelque chose qui est très flagrant. Je le voyais là, quand on arrivait vers la fin septembre, début octobre. Aussitôt qu'il y avait une petite pluie, les gens étaient tellement contents. C'était vraiment presque la danse de la pluie, là. Donc, c'est triste de voir à quel point ça devient rare, cette ressource-là. Puis, c'est là qu'on se rend compte aussi de l'importance que ça a pour tout le monde. Puis, il y a aussi les phénomènes du réchauffement climatique puis de l'augmentation démographique qui entrent en ligne de compte parce que ça a une grosse pression, justement, sur la ressource en eau. Donc, c'est là encore là qu'on voit que tout peut être bouleversé. C'est pas seulement parce qu'on manque d'eau une année que l'année suivante, ça va être pareil, mais ça peut s'aggraver de plus en plus. Puis lorsqu'on parle de pénurie d'eau, ben on sait que ça rime aussi avec risque pour la souveraineté alimentaire. Donc, dans les régions rurales, le manque d'eau et la hausse des températures, ça frappe de plein fouet les cultures agricoles traditionnelles. Donc, c'est vraiment très insécurisant pour les peuples qui sont parfois très pauvres et qui n'ont pas accès à la nourriture qu'on importe. Donc, c'est vraiment important pour eux de garder leur souveraineté alimentaire. Puis, je dirais aussi, comme partout dans le monde, les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses en Bolivie. Donc, il y a des sécheresses, il y a des inondations, il y a l'augmentation des feux de forêt. Cette année, on l'a vraiment vu. Là, dès que je suis partie au mois d'octobre, il y a eu des gros feux de forêt qui sont arrivés. Et il y a aussi la propagation de maladies, là, comme un peu partout dans le monde.
Wow! C'était vraiment complet comme réponse. Je pense qu'on a vraiment un portrait assez global pour nous permettre de continuer notre échange en ce qui concerne la Bolivie, mais... Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres parallèles à faire par rapport à d'autres communautés ailleurs dans le monde, que c'est ça, les réalités, puis comment est-ce que bien, les enjeux climatiques finissent par cascader sur leur capacité à cultiver puis à être autonome alimentairement. Puis en ce moment, ce serait quoi les différentes solutions qu'on pourrait voir pour garder notre souveraineté alimentaire dans ce genre de conditions-là?
Bien, j'aimerais parler probablement des solutions basées sur la nature, qui est un concept un peu, je dirais, qui peut être paradoxal. Parce que je vais commencer en disant c'est quoi la définition officielle selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, qu'on appelle l'UICN. Donc, il y a vraiment cette définition-là qui est très officielle, qui est selon moi, très occidentale. Donc, les solutions basées sur la nature, ce sont des actions qui visent à protéger, à gérer durablement et à restaurer les écosystèmes naturels et modifiés qui répondent aux défis de la société de manière efficace et adaptative, tout en bénéficiant aux personnes et à la nature. Donc, en fait, l'idée ici, c'est d'apporter une solution à une problématique. Par exemple, sur une terre agricole, on sait qu'il y a un problème d'irrigation ou peu importe. Et là, on essaye d'apporter une solution qui est, comme ils disent, basé sur la nature pour essayer de répondre à cette problématique-là. Mais puis là, c'est sûr que là, ils rentrent en ligne de compte avec tout ça, que ça va générer des co-bénéfices. Donc, les solutions basées sur la nature, c'est multifonctionnel, ce qui veut dire que ça va apporter vraiment ça va permettre de relever des défis sociétaux, ça va bénéficier aussi à la biodiversité, au bien-être humain. Mais ce que je trouve paradoxal là-dedans, puis le bémol que je mettrais là-dessus, c'est que quand on dit qu'on veut développer les solutions basées sur la nature, je pense qu'on oublie en fait que la nature, la planète, a été capable de s'auto-réguler puis de fonctionner par elle-même depuis toujours. On oublie aussi que les peuples autochtones ont appris depuis des siècles à comprendre cette nature-là et à vouloir la respecter pour bénéficier des services qu'elle rend. Donc en fait, je trouve que c'est comme si on oubliait que tout fonctionnait parfaitement bien jusqu'à temps que l'industrialisation puis la surconsommation viennent un peu bousiller cet équilibre-là qui existait dans notre monde grâce aux écosystèmes. Fait que seulement le fait de parler de solutions basées sur la nature, c'est comme utiliser un langage, selon moi, qui est vraiment anthropocentrique. Donc, c'est un langage humain. La nature se base sur elle-même depuis toujours. Fait que c'est ça. On oublie en fait que tout dépend de cette nature-là, puis l'approvisionnement en nourriture, en médicaments, la capacité du climat à s'autoréguler, ben on a besoin de la nature pour ça, puis c'est pas nous, l'humain, qui va inventer cette nouvelle technologie-là.
Comme tu le dis si bien, justement, la nature, elle va continuer sans nous. Mais là, on est là, alors essayons de collaborer ensemble puis de s'inspirer de sa résilience, de sa créativité et de sa capacité justement à traverser les différents changements climatiques pour nous aider à contrer l'insécurité alimentaire. Puis d'autres personnes qui avant nous ont eu cette sagesse-là, c'est clairement les communautés autochtones. Pourquoi est-ce qu'en ce moment, les savoirs autochtones peuvent être finalement en fait plus efficaces dans notre contexte que par exemple l'utilisation de technologies ou de sciences ou de nouvelles semences ou autres? On l'abordait entre autres dans le premier épisode, là, il y a un retour qui se fait de la part de plusieurs communautés auprès de savoirs ancestraux et de semences ancestrales. Puis pourquoi selon toi en ce moment c'est pertinent de faire ce genre de retour-là?
Je propose en fait de commencer avec la réponse de Marcos Nogren, qui est spécialiste en sciences environnementales et techniques. Donc Marcos, il vient de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climatico, donc la plateforme bolivienne contre le changement climatique. Je l'ai rencontré en premier en Bolivie, puis ensuite on s'est revus lors de la COP28. Donc je pense que ça va être intéressant d'entendre sa réponse.
Tienen que ver como con cosas muy concretas, ¿no? Como por ejemplo con la Il s'agit de choses très concrètes comme la connaissance du type de plantes, des fruits, des noix et des fibres récoltées dans les communautés autochtones des basses terres de Bolivie. Par exemple, en Amazonie, ou une connaissance très spécialisée de l'écosystème, de sa composition et de l'hétérogénéité des espèces est indispensable à la survie. Elle est également indispensable pour réussir à former des communautés dans ces conditions. De même, les savoirs des agriculteurs des hauts plateaux andins ou la connaissance de la culture de la sélection des patates, du quinoa, de l'amarante, ainsi qu'un ensemble de produits agricoles domestiqués dans la région, est un élément central du savoir autochtone. Tout cela n'est pas seulement utile aux populations locales, mais a permis de nourrir le monde entier. Par exemple, la patate qui est cultivée aujourd'hui au Canada, en Europe du Nord et dans le monde entier, ou bien les maïs et d'autres cultures qui sont aujourd'hui utilisées collectivement dans le monde entier, mais qui sont issues de ces savoirs autochtones. Malheureusement, dans le contexte actuel, le débat mondial s'est beaucoup orienté, comme nous l'avons vu lors de la dernière COP climat, vers les attentes du monde moderne à l'égard des technologies. Nous avons d'énormes attentes. Nous plaçons pratiquement le destin de l'humanité entre les mains de quelques technologies dont la science elle-même a montré qu'elles n'ont fait que très peu de progrès au cours des dernières décennies et que nous n'avons pas vraiment de perspectives concrètes quant au rôle qu'elles pourraient jouer. Je pense notamment aux technologies de captage et de stockage du carbone, mais aussi d'autres technologies qui promettent que l'absorption du dioxyde de carbone de l'atmosphère pourrait être les moyens de sortir de la crise climatique, ainsi que d'autres formes de géo-ingénierie telles que la dispersion des oxydes d'azote, la fertilisation des océans et la gestion du rayonnement solaire, qui font l'objet de nombreuses discussions à l'heure actuelle. Malheureusement, un grand nombre de ces solutions technologiques sont utilisées et adoptées pour l'intérêt des entreprises et aussi pour des intérêts nationaux. Des pays qui voient dans ces promesses technologiques l'excuse parfaite pour éviter d'assumer des véritables engagements de réduction des émissions, ce qui implique des réels sacrifices matériels dans les pays développés, tels que l'Europe, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada ou le Japon. Ces pays doivent faire des sacrifices matériels très concrets, notamment en termes de consommation d'énergie et d'autres types de consommation qui ne sont pas durables. L'utilisation d'énormes quantités de vêtements, le gaspillage d'une grande quantité de nourriture, une utilisation de l'énergie qui n'est pas durable. Bref, l'ensemble des changements qui doivent se faire dans ces secteurs ne peut être composé par la technologie, qui en outre n'a même pas la perspective d'atteindre la réduction de 50% des émissions d'ici 2030, telle qu'indiquée par la science, et très probablement encore moins de contribuer à l'élimination de ces émissions d'ici à 2050. Le temps presse et nous n'avons plus le temps de continuer à utiliser ces excuses technologiques dont la science elle-même montre qu'elles ne permettent pas d'atteindre les objectifs à court terme. Au lieu de ça, nous devons réorienter cette discussion vers un véritable débat sur les transformations structurelles qui doivent avoir lieu.
Hasta el 2050. Los tiempos son muy cortos y no nos queda tiempo de seguir utilizando.
Oui, donc c'est ça. C'est super pertinent ce que Marcos dit ici. En fait, en Amérique latine seulement, il y a plus de 800 peuples autochtones distincts qui connaissent chacun un territoire spécifique avec des plantes et des animaux spécifiques puis qui transmettent la culture et les connaissances de génération en génération depuis tellement longtemps. Donc c'est vraiment vraiment important de prendre en compte tout leur savoir qui est tellement riche. Puis, récemment, je suis tombée sur un article là, qui vient tout juste d'être publié par le Climatoscope, qui a été écrit par Alexandre Gagnon et Elia Pommel. Puis, selon moi, ça explique quand même vraiment bien la conception qui est complètement différente du territoire entre les peuples autochtones et le soi-disant Canada, donc la façon que les soi-disant Canadiens conçoivent le territoire. En fait, je pense qu'il y a comme toute la dimension de spiritualité qui entre en ligne de compte quand les Autochtones parlent de leur territoire. Donc, ils considèrent le territoire comme le fondement de leur culture, puis toute leur relation avec la terre est vraiment basée sur le respect, sur l'équilibre, sur la protection. Puis de l'autre côté, ben il y a nous, l'État colonialiste canadien, qui est fondé au contraire sur une croyance en une économie capitaliste extractive. Puis on voit la nature, dans le fond, comme une ressource, point barre. Comme une source de capital. Donc, on n'a pas du tout la même conception. Puis ça nous a amené, en fait, à créer des technologies qui nous mènent à faire de la monoculture, à surconsommer, puis même à gaspiller la nourriture. Fait que c'est vraiment pas une façon de voir la Terre comme si c'était vraiment elle qui nous apportait qu'est-ce qu'on a besoin, mais plutôt c'est nous qui extrait qu'est-ce qu'on veut avoir.
On va prendre plutôt que de recevoir.
C'est ça, c'est ça, exact.
Qu'est-ce que le développement durable selon les membres de l'ACOSI? Il existe des visions alternatives du développement durable qui se rapprochent de ses principes de base. Par exemple, certaines et certains promeuvent un développement à la fois soutenable et viable pour toutes et tous. Parler de soutenabilité plutôt que de durabilité met l'accent sur une forme de développement qui doit pouvoir être supportée par l'environnement et à perpétuité. L'ajout du vocable « viable » rencontre des impératifs des qualités de vie et d'équité qui doivent être au centre de toutes initiatives de développement. Comme autre alternative au développement durable, il existe le modèle du Buen Vivir, ou Sumak Kaosai en quechua, qui a émergé en Amérique latine, en particulier de la Bolivie et de l'Équateur, et qui gagne de plus en plus en popularité. Le Buen Vivir est un projet politique qui rompt avec la logique capitaliste extractiviste axée sur le progrès et la modernité. Il met plutôt l'accent sur la relation de dépendance mutuelle entre l'humanité et l'environnement. Le modèle du Buen Vivir repose sur une logique de coopération capable de combiner les intérêts nationaux, de la communauté globale et de la nature. Pour réaliser le Buen Vivir, les politiques et les initiatives de coopération et de solidarité internationale doivent valoriser les savoirs ancestraux autochtones et s'appuyer sur des conceptions pré-capitalistes de la nature fondées sur la soutenabilité et la réciprocité. Cette définition est tirée du lexique de la solidarité internationale développée par l'ACOSI dans une perspective de décolonisation des savoirs.
Quand on essaie d'aborder les solutions basées par la nature, comment est-ce que ces solutions-là peuvent devenir alliées pour s'adapter au changement climatique, devenir alliées pour s'assurer d'une souveraineté alimentaire? Est-ce que tu as des exemples concrets de solutions basées sur la nature qu'on peut mettre en place par rapport à ça?
Oui, bien, il y en a vraiment plusieurs, là. Donc, c'est sûr que chaque contexte est différent, donc chaque solution est différente. Mais, par exemple, il y a des solutions qu'on peut utiliser pour faciliter l'irrigation des sols. Il y en a d'autres que c'est pour lutter contre les insectes ravageurs, pour restaurer les terres, pour faciliter le travail aussi des pollinisateurs. Donc, on peut faire, par exemple, des corridors écologiques qui vont nous aider à avoir plus de biodiversité sur notre terre agricole. Donc, c'est tout vraiment une façon de cultiver qui est en phase avec la nature. Puis, dans un rapport de la FAO, qui est, dans le fond, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, on met vraiment en lumière le fait que ces solutions-là, ils ont des co-bénéfices qui sont importants. Puis ça, je tiens vraiment à le souligner parce que les technologies, en fait, ça répond à un besoin, c'est tout. Ça vient juste dire, ah, ben on a de la misère à irriguer notre sol. Ah, ben voilà une solution d'irrigation. Mais les solutions basées sur la nature, elles, permettent d'augmenter notre résilience face au changement climatique, mais en même temps, souvent, elles permettent aussi de réduire les émissions de GES, d'absorber plus de carbone dans les sols, de valoriser la nature. Puis ça profite aux communautés locales parce que ça apporte une certaine santé sur la terre, puis ça apporte plus de services écosystémiques qui font en sorte que la qualité de l'air est bonne, la qualité de l'eau est bonne, ça coûte moins cher à produire, puis tout ça parce qu'on n'a pas besoin de technologies coûteuses. Fait qu'il y a vraiment toutes sortes de solutions qu'on peut utiliser comme ça qui sont excellentes, là.
Dans son intervention, Marcos l'aborde un peu, mais il y a toutes sortes d'attentes puis d'issues qu'on peut espérer de la COP. Puis je me demandais, lors de votre passage ou de celui de Marcos, est-ce que vous avez eu l'occasion de revendiquer certains points en lien avec ce qu'on vient d'aborder?
Oui, bien en fait, moi, avant de partir de la Bolivie, je savais que j'irais à la COP28, puis je suis rentrée en contact avec Marcos justement pour avoir une idée un peu des revendications principales de la Bolivie. à la COP. Et puis, justement, on a discuté en fait du fait que la Bolivie subit vraiment une certaine commercialisation de la nature sur son territoire parce que les pays des Nord qui compensent leurs émissions de gaz à effet de serre avec des supposés crédits carbone, ce que ça a comme répercussion en fait, c'est que ensuite on tente de conserver des milieux naturels dans des pays des Sud, comme c'est le cas en Bolivie. Puis, en faisant ça, en fait, c'est que au lieu d'avoir des effets positifs sur le pays, au contraire, ça limite souvent le pouvoir d'action des peuples autochtones qui sont sur ces milieux naturels-là, qui sont souvent très en lien avec les forêts, avec tous les cours d'eau et tout ça. Ça vient vraiment limiter qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensuite parce qu'il y a eu des crédits carbone qui ont été vendus puis ça a occasionné une conservation. Et donc, Marcos m'avait tout expliqué ça, puis lui, il disait que vraiment, au lieu de pousser pour avoir des marchés du carbone un peu partout à l'international, au contraire, la Bolivie revendiquait d'avoir des solutions non fondées sur le marché puis d'avoir des façons beaucoup plus en phase avec la nature de absorber des gaz à effet de serre et tout ça. Donc, on en avait discuté avant que je quitte, puis une fois rendu à la COP28, vraiment, là, ça a été un sujet que j'ai souvent entendu parler, comme quoi on liait un peu la biodiversité aux émissions de gaz à effet de serre, puis ça n'avait pas toujours juste des effets positifs. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer de pousser. Puis j'ai vu justement dans les textes de la COP que la Bolivie poussait pour cette revendication-là. Donc, j'étais bien contente d'être au courant puis de pouvoir moi aussi le pousser là, dans les différents événements auxquels j'ai assisté.
C'est super intéressant. Puis je dois t'avouer que quand je préparais l'épisode, j'avançais puis je ne pouvais pas te laisser filer sans profiter en fait de l'expertise que tu as par rapport à la situation ici au Québec. Je me demandais justement qu'est-ce que les municipalités québécoises doivent faire actuellement en réaction au changement climatique, qu'est-ce qu'elles peuvent faire comme mesures d'atténuation pour à mettre en place en fait actuellement.
Bien, je dirais, pour faire peut-être un parallèle justement avec les communautés autochtones, bien que ce soit vraiment complètement différent, là, mais les municipalités, ça reste que c'est des gouvernements de proximité au Québec, puis elles ont quand même beaucoup de leviers d'action là, pour pouvoir agir, fait que, parce qu'elles sont proches de leur population, c'est le palier de gouvernement qui est le plus proche des citoyens. Donc, elles peuvent vraiment agir là, autant au niveau de la réduction des GES que de l'adaptation au changement climatique parce qu'elles connaissent les pollutions, les nuisances, elles connaissent leur territoire, elles connaissent leurs citoyens. Donc, c'est vraiment plus facile pour elles d'agir concrètement. Mais par contre, ce qu'il faut faire un peu attention avec ça, c'est une certaine promesse de résilience derrière le mot « adaptation ». Ça ne veut pas dire que parce qu'on s'adapte, qu'après ça, tout va bien aller, puis les changements climatiques, dans le fond, il n'y a pas de problème à avoir là. Fait que non, les changements climatiques, ça nécessite de s'adapter, c'est sûr. Mais si on n'atténue pas les changements climatiques en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, à un moment donné, on va arriver dans une impasse. Puis, en fait, je pense que c'est comme ça, justement, que les gens voient ça. C'est que, ah, parfait, on va s'adapter, mais nous, on n'a rien à faire, là, les Québécois. Toute la vie est
pas
belle.
Pas de remise en question.
Ben non, c'est ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Puis on le sait, là, au Québec, on est des tellement gros consommateurs d'électricité, de matériel, de voitures. On gaspille la nourriture comme ça n'a pas de bon sens. Fait que il faut réduire à quelque part parce que sinon, s'adapter à un moment donné, ça n'aura juste plus de sens. Puis il va avoir une fin à ça. Fait que faut travailler aussi sur nos habitudes au quotidien.
Qu'est-ce que la justice écologique selon les membres de la COSI? La justice écologique célèbre l'interconnexion et l'interdépendance entre tous les êtres. Elle reconnaît la responsabilité que nous avons en tant qu'êtres humains de coexister dans l'harmonie pour le bien-être de la communauté planétaire. La justice écologique met de l'avant la dignité humaine et le développement d'économies durables dans la justice pour tous et toutes au sein d'un monde où les ressources sont limitées. Elle se fonde également sur le fait que les systèmes économiques, sociaux et politiques dominants ont favorisé les populations des pays du Nord, qui en sont encore aujourd'hui les principales bénéficiaires. Ces systèmes ont entraîné l'épuisement de la diversité écologique de la Terre, la destruction de ses écosystèmes, la pollution du sol, de la mer et de l'air, l'extinction de nombreuses espèces et les changements climatiques. Ce sont les populations des pays du Sud qui ressentent le plus durement les retombées de ces phénomènes, elles qui en sont pourtant le moins responsables. Cette définition est tirée du lexique de la solidarité internationale développée par la COSI dans une perspective de décolonisation des savoirs.
Je voulais te poser en fait la question. Ben, comment est-ce qu'on peut prendre part à l'action climatique? Comment est-ce que chacun d'entre nous peut se mettre en action ici, ailleurs? J'en profite justement pour qu'on aille écouter un autre extrait avec Marcos qui avait d'ailleurs, lui, une réponse à nous offrir sur le sujet. Puis après, on pourra continuer avec tes pistes de solutions de comment prendre part à l'action climatique.
Que las discusiones acerca de la crisis climática que estamos teniendo hoy en día están involucrando.
Je pense que les discussions sur la crise climatique que nous avons aujourd'hui impliquent les gens de manière beaucoup plus active et consciente. Par exemple, en Bolivie, dans notre organisation, où nous avons conclu des alliances avec d'autres plateformes de jeunes, comme la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático. Et dans cette nouvelle phase, nous avons conclu cette alliance en fait en 2023, une alliance très solide, ce qui nous a donné la possibilité de travailler ensemble. Et ce que nous remarquons dans cette expérience, dans cet exercice d'alliance et de travail conjoint, c'est un potentiel très important ainsi qu'une capacité de la jeunesse à articuler des luttes qui sont actuellement isolées dans la société. Les femmes se battent d'un côté, les peuples autochtones d'un autre, les syndicats d'un autre. Bref, les luttes sont très isolées et très décossues. Les jeunes peuvent jouer un rôle d'articulation dans ces scénarios et bien sûr, apporter à la discussion et au débat la nécessité de donner la priorité à des secteurs essentiels. Et nous l'avons vu très concrètement avec notre partenaire, qui a une sorte d'alliance naturelle avec les peuples autochtones et les groupes de femmes, des secteurs qui ont été laissés en marge et marginalisés de la participation. Les jeunes sont plus sensibles aux secteurs clés de la sécurité alimentaire, et je dirais même au-delà de la souveraineté alimentaire, à une question encore plus fondamentale, la sécurité alimentaire elle-même, qui est très concrètement menacée dans les scénarios immédiats avec des inondations, des sécheresses, des incendies de forêt, des parasites et d'autres phénomènes qui font déjà grimper les prix des denrées alimentaires. Par exemple, les patates coûtent aujourd'hui en Bolivie 2 fois plus cher qu'il y en a et cette tendance devrait continuer à s'accentuer. Les jeunes font preuve de cette capacité à articuler les luttes, en particulier avec les peuples autochtones et les femmes, pour rendre visibles les questions centrales, l'eau, la nourriture et l'énergie dans certains cas très spécifiques. Je pense que c'est de cette manière que les jeunes sont impliqués de façon très directe dans les questions de sécurité et de souveraineté alimentaire.
Oui, ben moi aussi, en fait, j'aurais une réponse à ça, là, comment prendre part à l'action climatique. C'est que je pense que les gens, des fois, ils nous voient, les militants, comme « Ah, vous, vous faites ça de votre temps, puis c'est toute votre vie, là, le militer contre les changements climatiques et tout ça. » Mais non, la lutte au changement climatique, là, ça se fait au quotidien, ça se fait par n'importe qui, que la personne ait des connaissances là-dessus ou pas, que la personne travaille dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel domaine, que ce soit aussi dans le cadre de ses loisirs avec ses amis. Peu importe, il y a tout le temps une façon de prendre part à l'action climatique. Puis justement, quand on est capable d'identifier quelque chose qu'on fait au quotidien puis qu'on voit qu'il y aurait peut-être du changement à faire, qu'il y aurait une transition qui serait possible, bien, je pense que c'est là justement que c'est important de prendre part parce que tous les domaines méritent qu'on prenne part. Puis je peux donner un petit exemple pour ma part, moi c'est le voyage en fait, parce que je me sentais tellement coupable tout le temps de partir en voyage, parce que j'aime beaucoup explorer, j'aime beaucoup découvrir des nouveaux pays et tout ça, puis je me sentais vraiment coupable de faire ça étant donné que ça génère des émissions de gaz à effet de serre et tout ça. Mais dans la dernière année, j'ai vraiment essayé de trouver des nouvelles façons de voyager qui pouvaient avoir un impact positif au contraire, fait que c'est pour ça que j'en suis venue à aller en Bolivie, faire un plus long voyage qui a duré plusieurs moi, que j'ai pu faire de la coopération internationale et tout ça. Donc, je pense qu'il y a tout le temps une façon d'adapter un peu nos façons de faire, puis plus on va en parler, plus on va se rendre compte que dans tout ce qu'on fait au quotidien, il y a une façon de se rendre utile puis de prendre part à l'action climatique.
Merci encore une fois pour ta contribution à cet épisode, pour toutes ces pistes de réflexion-là.
Merci beaucoup.
Merci aussi pour ta contribution à la délégation jeunesse de la COSI à la COP28. Tu as apporté vraiment ta couleur à ce voyage-là, aux différentes chroniques qu'on a pu avoir de qu'est-ce qui se passait là-bas. J'aimerais aussi remercier le partenaire bolivien du COSI dont nous avons entendu les extraits en entrevue, Marcos Nordegren, qui est spécialiste en sciences environnementales et techniques à la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático. Puis un merci tout spécial à vous qui nous écoutez. On espère sincèrement que nos échanges vous ont permis de mieux comprendre l'intersectionnalité entre les enjeux climatiques et la souveraineté alimentaire. On vous invite à continuer à vous informer, vous poser des questions et vous aussi prendre part à l'action climatique. C'était Sandrine Elie pour la table de concertation jeunesse en solidarité internationale. On vous remercie de nous avoir accompagnés à travers cette belle rencontre. Ce balado est rendu possible grâce à la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de la COSI, SCO et le CECI. Un merci tout spécial au studio CISM pour le montage de cet épisode. Et pour en savoir plus, on se retrouve sur nos différents médias sociaux.